Alors, c'est ainsi que je dis que, on va en parler peut-être plus dans la discussion collective. Évidemment, là, j'ai choisi un angle hein, d'attaque, parce que, pardon, c'est pas une page de publicité, c'est pas de la publicité subliminale pour attaque, encore que ça ne gênerait pas de faire de la publicité pour attaque. J'ai choisi un angle d'attaque pour montrer la nature multidimensionnelle du processus. Le livre, lui, parle beaucoup, enfin, il est organisé d'une manière qui montre que le phénomène de régression, ce que j'appelle la grande régression, enfin les deux majuscules comme les Trente Glorieuses ou autres, parce que c'est une période historique qui a commencé depuis une trentaine d'années, est un processus qui dépasse vivement de très loin simplement le déclin du capitalisme, la crise économique et financière à répétition, d'ailleurs engagée, etc., depuis longtemps. Mais ce dont je parle est un phénomène justement de retournement de la logique d'évolution de la société et que je décris comme une mise en marche arrière de la civilisation moderne. C'est-à-dire que ce qui avait commencé de se mettre en avant, y compris tout ce qui, à travers toutes les erreurs du passé, avait sans doute été nécessaire dans notre histoire pour nous amener à ce début de commencement où on entrevoyait un monde où les gens, même sans encore y parvenir, avaient conscience d'erreurs, en tout cas passées, qu'il fallait éviter, de types de chemins qu'il fallait éviter. Donc commencer au moins sans être encore capable de le faire, mais de commencer de comprendre, oui, en quoi consisterait le progrès. Et dans certains domaines, commencer à le mettre en œuvre, alors qu'on en était là, tout est reparti en marche arrière, et quand je dis tout, c'est pas seulement justement une régression économique et sociale du fait d'un capitalisme fou et idiot qui est totalement inefficace, déjà même sur le strict plan économique, et que c'est pas seulement la régression sociale que nous connaissons, qui est facile à décrire en termes de recul des droits sociaux, d'explosion des inégalités, etc. Tout ça est trivial, mais que c'est bien plus profond, c'est-à-dire que c'est aussi une régression morale. De la civilisation moderne, parce que c'est l'installation peu à peu justement d'une conception de l'individu qui est inhumaine et qui non seulement est inhumaine mais qui n'est pas soutenable, c'est-à-dire qui nous fait souffrir, qui fait que nous avons des populations de plus en plus pathogènes, et qui fait que nous avons évidemment une souffrance épouvantable, psychique. Sans parler évidemment alors de l'espèce de barbarie qu'est maintenant les formes d'intensification de souffrance infligées au travail. Donc c'est une régression morale, c'est une régression sociale, c'est une régression économique, c'est une régression écologique aussi, puisque ce mouvement s'est enclenché au moment où justement il commençait à y avoir une prise de conscience écologique dans les années 70 avec les chocs pétroliers, avec vraiment le début des mouvements écologistes sur le plan politique, leur entrée en politique, au moment où l'humanité commençait à faire une prise de conscience de la nécessité d'une réorientation des modes de production, etc., patatrac, c'est juste à ce moment-là qu'arrive cette grande révolution néolibérale qui fait qu'on va donner les pleins pouvoirs au capital et à la compétition économique qui va faire passer l'exigence de compétitivité et de profitabilité devant toutes les autres. Ce qui fait que l'humanité prend 30 ans de retard. Alors qu'elle avait pris le chemin qui aurait pu lui permettre 30 ans précieux hein, en matière de préservation de la biosphère, du climat, de l'environnement, de lutte contre les pollutions, etc., de recherche en matière de sources d'énergie alternative, 30 ans de perdu parce que ces 30 ans ont été consacrés uniquement par l'obsession de la compétition et de la recherche du profit. Et quand je dis régression écologique, c'est pas seulement ça. Ces régressions écologiques aussi dans le sens où on voit qu'il y a une récupération, aussi, une tentative, non, heureusement ça ne marche pas complètement, mais une tentative de récupération de l'écologie et qui prend en partie dans certains mouvements écologistes à travers toutes les idées de capitalisme vert, enfin, d'écologie compatible avec le capitalisme, etc. C'est-à-dire une forme de régression de la pensée écologique elle-même qui va se trouver déformée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'idée que ce sont les modes de production et le système économique et donc le système capitaliste qui devraient être contestés parce que c'est à eux de s'adapter aux exigences d'une forme de vie et de production qui soit compatible avec un écosystème soutenable pour les générations futures, on en arrive à l'idée inverse, c'est-à-dire qu'il faut une conception de l'écologie et de la transformation, je dirais, écologique du monde qui soit compatible avec le capitalisme. Et paradoxalement, le capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme vert, qui a beaucoup de succès dans certains milieux, en réalité, c'est ça. Le capitalisme vert, c'est un capitalisme évidemment durable. Et le capitalisme durable, si tant est que ça puisse exister, en admettant, je ne le crois pas, mais parce que je pense que fondamentalement, justement, à partir du moment où le pouvoir est au capital principalement, de toute façon, in fine, le capitalisme vert, ça ne peut être qu'un capitalisme qui pollue un peu moins aujourd'hui, qui préserve un peu plus aujourd'hui, pour pouvoir continuer à bousiller plus longtemps. Voilà, jusqu'au bout. Mais de toute façon, si on ne change pas le sens de la logique et le lieu du pouvoir, ça ira jusqu'au bout. Alors peut-être que ça prendra plus de temps parce que ce capitalisme va être obligé de composer avec des exigences écologiques, mais comprenons bien que la bonne logique écologique devait être inverse. Non, on ne doit pas juste composer pour intégrer une contrainte, il doit y avoir une finalité d'une conception écologique de la société et de l'économie, et on doit adapter l'économie et les systèmes à cette finalité. Ça, c'est de l'écologie. Et donc, quand je vois une écologie qui commence à penser à l'envers, elle aussi, et qui dit que finalement tout ça c'est au-delà du clivage droite-gauche et qu'il n'y a pas besoin de contester le capitalisme pour pouvoir mettre en place une écologie véritable, je parle aussi de régression écologique. Bon. Il y a une régression politique, une régression de la démocratie qui est évidente, et une régression morale et intellectuelle. Parce que le fin du fin de cette période de grande régression, c'est quoi? Et je vais terminer là-dessus. Je parle évidemment beaucoup de la crise économique, de son analyse, etc., dans le livre, c'est-à-dire de tous les phénomènes de retour en arrière et toutes les catastrophes qui sont enclenchées. Elles sont enclenchées toutes sur la base d'un même phénomène fondamental, qui est le pouvoir, le déséquilibre du pouvoir, qui a été introduit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en donnant quasiment les pleins pouvoirs à ceux qui détenaient l'argent. Il faut bien comprendre que depuis 12 000 ou 13 000 ans que commencent d'exister des formes de grandes sociétés, de grands rassemblements humains, donc de véritables sociétés qui dépassent la tribu primitive de chasseurs-cueilleurs, aucune des civilisations et des sociétés, sous toute forme qu'elles soient, jusqu'à celles que nous connaissons depuis 30 ans, n'ont toléré que les pleins pouvoirs soient donnés à l'argent. Même pas la civilisation capitaliste moderne avant la fin des années 70. Certes, avec le capitalisme, a commencé, et je dis dans le livre que c'est l'engrenage de la régression, a commencé ce péché originel qui a consisté à dire que désormais dans la production, il y aurait un acteur qui, parce qu'il détenait l'argent et donc les moyens d'acheter les machines, et d'avoir les moyens de production, alors c'est lui qui aurait tout pouvoir, et qui déciderait, qui dirigerait l'entreprise, qui serait propriétaire, qui pourrait s'accaparer le résultat et en faire ce qu'il veut, ce qui était une façon d'instituer une dictature d'un des acteurs de la production sur tous les autres et sur toute la société. Oui, et ça, évidemment, c'était déjà le début d'un pouvoir exorbitant qui, potentiellement, si vous le laissez se déployer, est destructeur. Si vous laissez un seul acteur le pouvoir d'imposer sa volonté à tous les autres, forcément, ça se termine en catastrophe. Mais la catastrophe n'a pas eu lieu, et Dieu sait s'il y en a eu, et l'histoire a été dialectique, elle a été un ensemble de progrès, de régression, de progrès, de régression, etc., mais d'où il était sorti quand même un certain nombre de choses, des lois sociales, quelques progrès de la démocratie, etc., etc. Pourquoi? Parce que même dans cette civilisation capitaliste, en réalité, le capitalisme n'avait pas le pouvoir absolu. Il l'avait théoriquement sur le papier. En tant que chef de l'entreprise, propriétaire des moyens de production, dans la réalité, il devait composer, un, avec des conventions sociales et une morale collective, parce que le capitalisme s'installe dans une société où on n'a pas encore le culte de l'individu et le culte de l'argent roi. Et donc, il y a des conventions sociales, morales, etc., qui font qu'on ne peut pas tolérer une société qui soit juste gouvernée par le pouvoir du fric, et donc il faut composer avec. Il a été introduit dans des territoires, avec des frontières, où il fallait composer avec les exigences politiques des localités et des pouvoirs. Pouvoirs qui, devenant peu à peu un petit peu démocratiques, soumis à des électeurs, étaient obligés de tenir compte de la vie des populations, donc des travailleurs. Et donc ils devaient composer avec la résistance des travailleurs, qui tout au long du 19e siècle finit quand même par aboutir aux premières lois sociales. Alors c'est vrai, dans le sang, les grèves, etc. Oui, mais un capitaliste n'avait pas le pouvoir parce qu'il avait un pouvoir, il avait théoriquement et potentiellement un pouvoir exorbitant, mais il était affronté, il devait s'affronter à la résistance morale de la société, des conventions et des contraintes morales, une société qui n'était pas du tout individualiste, affronter les résistances politiques, affronter les résistances de la force de travail, et affronter donc l'ensemble de ces résistances. Et de ce fait, le capitalisme était engagé dans une logique, comme l'ont très bien montré Boltanski et Chapello, d'ailleurs dans Nouvel Esprit du Capitalisme, où en fait c'était lui qui était en train de s'adapter petit à petit aux exigences de la société. À la fois de manière très maligne, c'est-à-dire qu'il était obligé de composer avec société pour survivre et maintenir son pouvoir, oui, mais ça ne le laisse pas indemne. Et donc quand ça vous fait apparaître justement le capitalisme déjà de l'avant-guerre, mais surtout le capitalisme d'après les Trente Glorieuses, qui est un capitalisme où surtout vous avez des managers salariés, des chefs d'entreprise qui dirigent les boîtes, pas en fonction des exigences de rentabilité financière, en fonction de stratégies industrielles, de projets d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploitation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, mais c'est déjà plus le capitalisme qui, au nom du seul souci de son capital, sa rentabilité, peut faire ce qu'il veut. La réalité est déjà tout autre. C'est un autre partage. Quand les salaires ouvriers sont multipliés par deux en 20 ans, pardon, c'est un bouleversement de la répartition des revenus. Quand une part croissante de la richesse nationale produite doit aller à autre chose que l'entreprise et le secteur privé pour financer de la protection sociale, des services publics, etc., c'est encore tout ça qui est perdu pour les profits. Bref, on a quoi sous les yeux? On a un capitalisme qui, pour pouvoir survivre, et tout en essayant lui-même de manipuler le contexte pour maintenir son pouvoir à toute force, en réalité, est en train d'être obligé de s'adapter de plus en plus à des exigences de la société. Et c'est bien pour ça que les néolibéraux, arrivant au pouvoir à la faveur du changement des rapports de force, veulent absolument casser la totalité de ces compromis, dire, ça y est, c'est fini, arrêtez les bêtises, on va arrêter d'adapter aux exigences de la société, des travailleurs, le système économique. On reprend le pouvoir et on remet la machine en marche arrière. Et donc, la grande régression, c'est le fait que par cette victoire-là et par le mécanisme qui a été utilisé de l'abolition des frontières économiques pour le capital, pour les marchandises, etc., en créant le vaste terrain universel et planétaire de la lutte totale, qui est un instrument fondamental pour dissoudre toutes les résistances, justement pour abattre la capacité de résistance des territoires qui maintenant sont en guerre contre les uns contre les autres. Et puis surtout pour placer psychologiquement et symboliquement les individus dans un état de tétanie et de peur face à ce monstre. Votre ennemi, ce n'est pas le voisin avec qui, à la limite, vous pouvez vous battre, voire composer et négocier. C'est la planète tout entière. Et donc tout ceci a été fait pour briser ces résistances. Et ces résistances ont été brisées, pas totalement, mais elles ont été largement brisées. Et le résultat, c'est que pour la première fois, c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'humanité, que tout d'un coup, ceux qui détiennent l'argent ont vraiment le pouvoir. Ont vraiment le pouvoir d'exiger que l'ensemble des acteurs et de la société s'adaptent désormais à leurs exigences. Donc ce ne sera plus le capitalisme qui va essayer de négocier, de composer, pour pouvoir maintenir sa prééminence en faisant des concessions. Ça, il n'en est plus question. C'est désormais le profit et l'exigence de profit qui est l'exigence unique. Et à cette exigence doivent s'adapter tous les autres acteurs. Alors évidemment, les premiers, c'est les travailleurs dans l'entreprise, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement ça. C'est l'ensemble des systèmes économiques et sociaux, car la mise en compétition des territoires fait qu'on vous dit, si vous n'avez pas un système social qui coûte moins cher, des impôts moins élevés, etc., vous n'êtes pas compétitif. Donc c'est l'ensemble de la société qui va être adaptée peu à peu aux exigences du capital. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que les effets sont si dévastateurs, Parce que justement, on est dans une logique où chaque concession qui est faite par les individus, qui est faite par des travailleurs, qui est faite par des États, par un territoire, etc., au profit du capital, en fait, les affaiblit et est exploitée au tour d'après, bah, pour en remettre une louche et pour avoir des exigences encore pires. On le voit bien en ces temps de crise. Donc, je pense qu'il faut que je m'arrête parce qu'on discutera peut-être, vous discuterez peut-être des moyens de sortir de cette logique infernale, ce que je n'ai pas fait encore. Merci pour votre attention malgré pas ma